France Inter.
Salut Blockbuster, super émission sur Meryl Streep qui est effectivement une très grande actrice. Mais moi, j'avais une question. Vous avez parlé de Final Fantasy, vous avez parlé de Disney. Vous ne penserez pas qu'il serait temps de parler de la saga Kingdom Hearts? Bonne journée.
Hello Blockbuster, c'est Pierre Hameau de Sens Critique. Merci pour encore une super émission sur notre Meryl Streep. Au sujet des rumeurs et opinions sur son caractère sur les tournages, c'est peut-être à mettre en perspective avec le fait qu'elle a failli mourir, si je l'ai bien compris, sur le tournage de La Rivière Sauvage en 1994. Elle a raconté qu'elle a failli passer ou alors s'assommer sur un rocher et terminer peut-être comme Schumacher. Donc peut-être qu'elle a bien raison de temps en temps de ne pas accepter qu'on dise « ne vous énervez pas madame ou calmez-vous » si on a failli mourir. En plus, mort ou accidenté en 1994, on aurait perdu beaucoup de films. Merci, c'était Pierre Hameau de Sens Critique. Merci pour votre émission.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission sur Meryl Streep et merci d'avoir choisi ce sujet. Voilà, merci et bravo pour votre générique, j'adore. La première fois que je l'ai entendu, il m'a fait rire et il me plaît beaucoup. Voilà, to be or not to be, not to be. J'adore. Au revoir.
To be or not to be, not to be.
J'ai rencontré un amateur de heavy metal qui déteste le reggae. Alors, loin de moi l'idée de débattre sur les goûts et les couleurs de chacun, mais comment tu peux détester le reggae? Surtout quand ton truc à toi, c'est les chanteurs qui s'explosent le larynx en invoquant Satan en araméen. Tu peux être indifférent au reggae, mais le détester? Je vais être honnête, mais moi les rastas que j'ai croisés en France, ils étaient pas en état d'attaquer qui que ce soit. À mon avis, les métalleux qui haïssent le reggae, ils voient ce genre comme on voyait le Covid en pleine pandémie. C'est une sorte de truc qui s'attraperait dans l'air. Tu passes derrière un Rastafari, une effluve de ganja et paf, ça y est! T'as les cheveux qui font des dreads, t'arrêtes d'écouter Rammstein et tu te mets à chanter du Pierre Paul Jack. Et puis va faire du headbanger avec des dreads. Trois coups de tête et tu te retrouves avec des marques de coups de fouet sur le dos, genre Passion du Christ. Le reggae pour moi, c'est la politesse du désespoir mis en musique. T'as que dalle dans la vie. Ta femme ou ton mec t'a quitté. Les huissiers sont en train d'embarquer le dernier canapé que t'avais dans ton salon. Ton cardiologue te laisse un message pour te dire que ta dernière échographie est pas folichonne. Tu prends une grande bouffée de la vie et tu te dis que ça pourrait être pire. Tu pourrais ne pas avoir de main pour tenir ton bédo. Everything's gonna be alright. Le reggae, ça n'est pas occulter ses soucis, c'est les mettre en douce ironie musicale.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Nabbing mean dead to black and white oppressors.
Nabbing veut dire mort aux oppresseurs noirs et blancs. C'est la musique la plus spirituelle qui existe. Musique très spirituelle.
But the Nabbing is really the highest you can ever go in music.
C'est l'endroit le plus haut où on puisse atteindre en musique, le Nabbingi. Est-ce qu'on pourrait appeler ça le reggae des racines? C'est pas le reggae, c'est le Nabbingi. C'est au-delà du reggae.
Like Christian music, really, when you really know what you're doing.
Ça pourrait être la forme la plus pure de musique jamaïcaine. Ça peut être la forme la plus pure de musique tout court.
Every day and every night. Lion, like a lion in Zion.
Il fut à lui seul l'incarnation ultime du reggae. Grâce à lui, la musique jamaïcaine et le mouvement Rastafari ont pu avoir un rayonnement planétaire. Avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde, Bob Marley a profondément marqué l'histoire de la musique. Pour retracer le parcours de ce dernier, je suis entouré par celui qui, depuis 5 ans, fait du lobbying auprès de moi pour que je fasse cette émission. Sébastien Follin, bonjour.
Bonjour Frédéric, merci. Enfin.
Vous êtes auteur, réalisateur et producteur. Et durant votre carrière d'animateur à la télévision, vous avez notamment consacré une grande soirée hommage à Bob Marley, One Love, One Bob, sur France O en 2017.
Ouais, et j'en suis pas peu fier. On avait fait venir Tyrone Downey de Jamaïque pour accompagner le groupe ce soir-là. C'était une très belle soirée.
Avec nous également Francis Dordor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste musical, grand reporter aux Inrecuptibles et vous avez écrit Bob Marley, le dernier prophète, paru en 2019 chez GM Éditions.
Oui, tout à fait. Je ne suis plus grand reporter hein, maintenant, mais bon.
Vous êtes moyen reporter, c'est une histoire de...
Non, c'est que je collabore toujours aux Inrecuptibles, mais j'ai arrêté ma carrière de baroudeur et je me préoccupe surtout de faire des nécrologies, en fait.
C'est un métier d'avenir.
Totalement.
Avec nous, Fred Lachaise, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes le fondateur et directeur général du Sunska Festival.
C'est bien ça.
Alors, il faudra nous expliquer voilà, tout ce que ça recoupe, etc. Mais on fera ça après. Okay. Avec nous également, Alexandre Virapin-Apou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien et vous avez monté votre premier spectacle seul en scène, Bob et moi.
Ouais, exactement. On sort d'une année en tournée un peu partout dans la France. C'est un grand bonheur.
Les présentations sont faites. Il est temps d'explorer la vie de Bob Marley.
One of the early slogans.
L'un des premiers slogans Rasta disait « Votre mère vous abandonne, votre père vous abandonne, les Rasta vous accueillent. » Et Bob l'a sûrement entendu quand il était jeune.
And all the campsites, he Selassie definitely became
Haile Selassie a pris la dimension d'une image paternelle pour Bob.
Personal sense. Bob felt a special affinity.
Ce qui s'explique sans doute par sa propre histoire. Par le fait qu'il ait été abandonné par son père.
Le fait d'avoir un père blanc et une mère noire était très mal vu à l'époque. Et les deux communautés vous le reprochaient. Un blanc ne devait pas mettre une femme noire enceinte et une noire ne devait pas être enceinte d'un homme blanc. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'enfant qui naissait d'une telle union était rejeté, mais il pouvait le craindre.
C'était un extrait de la série documentaire de Stéphane Paoli Contre-courant dans un épisode consacré à Bob Marley en 2000. On y entend l'écrivain Garth White et Bunny Livingston, percussionniste et compositeur des Wailers. Alors, je vais poser une première question de néophyte, Francis Dordor. Est-ce qu'on peut dater l'apparition du reggae ?
Oui, tout à fait, oui. C'est, je dirais, 68-69, la fin des années 60. Après deux courants majeurs qui ont marqué l'histoire musicale de la Jamaïque, à savoir le ska et le rocksteady. Et le reggae vient un peu, effectivement, conclure une période de création intensive dans les studios jamaïcains, qui sont très nombreux, compte tenu, si vous voulez, de la relative petitesse de l'île, qui est à peu près la superficie de la Corse, avec 2-3 millions d'habitants. Mais effectivement, au mètre carré, ça fait un nombre incalculable de musiciens et donc de studios pour les enregistrer. Et à la fin des années 60, il y a une espèce de petite révolution qui est due en partie à l'infiltration de la pensée Rastafari dans le milieu musical. Donc Bob Marley en est un exemple, mais il n'est pas le créateur du reggae. Je pense qu'il y a deux, trois artistes qui l'ont précédé. Je pense à Stranger Cole avec un morceau qui s'appelle Bangarang. Je pense à Toots and the Maytals avec un morceau qui s'appelle Do the Reggae. Et Lee Perry qui va jouer un rôle important dans la carrière de Bob Marley puisqu'il va être le producteur de Bob à un certain moment, qui fait un morceau qui s'appelle People Funny Boy, qui marque un petit peu, qui est un peu la borne qui définit un petit peu l'arrivée du reggae. Donc on est 68-69, je dirais que c'est un peu cette période-là. Et le reggae finalement va durer une dizaine d'années. C'est assez court finalement. Je parle du reggae vraiment roots, quoi. Après, on va passer sur autre chose. Le raga, le slackness, enfin, il y a des tas de genres, de sous-genres qui arrivent, mais qui n'ont plus exactement la même finalité et surtout la même spiritualité que pouvait propager le reggae.
Sébastien Follin, le reggae puise ses inspirations dans quel genre musical ?
Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, puisque tout ce que je sais du reggae et de Bob Marley, je le dois en grande partie à ce que j'ai lu des écrits de Francis Dordor. Donc, je suis un peu impressionné d'être ici et d'être là à parler de Bob Marley.
Merci.
J'ai l'impression de passer le bac.
Mais je suis certain que Francis vous autoriserait quand même.
Oui, mais quand même.
Parce que depuis tout à l'heure, Sébastien parle un genou à terre.
Mais il faut le dire. C'est-à-dire que je ne suis là que comme représentant du lobbying des fans de Bob Marley qui a insisté auprès de Frédéric Sigrist pour que cette émission existe. Maintenant que Francis est là, j'ai juste envie de l'écouter, de lui poser des questions. Après, pour revenir à à votre question, Fred, la Jamaïque est vraiment dans la Caraïbe. Elle a sa musique propre qui est le mento, la Caraïbe à le calypso, et on est face aux États-Unis où il y a l'apport de tout ce qui est rhythm and blues, soul, et on peut dire que, pour résumer et simplifier, c'est un peu la rencontre de tout ça. Et d'ailleurs, on l'entend dans la musique de Bob. Bob, c'est pas que du reggae. Bob, c'est aussi de la soul music. En tout cas, c'est mon interprétation dans ce qu'on entend, même quand on écoute Catch a Fire, c'est rock. C'est le rock a petit à petit quitté, en tout cas pas en live, mais sur les albums, les rives de des compositions de Bob Marley. Mais on entend vraiment toute la musique occidentale. Parce que Bob parle de l'Occident quand il parle de notre monde. Il ne se considère pas dans l'Occident. Donc il y a toute la musique occidentale, puisque lui, il est clairement rattaché à l'Afrique.
Là, je m'adresse à l'autre Fred de la tablée. Est-ce que le reggae est une musique de réparation en Jamaïque ?
Une musique de réparation, en tout cas c'est une musique d'unité, c'est une musique fédératrice, c'est une musique qui rassemble les cultures, les âges, et qui effectivement fédère tout le monde. Alors plus que de réparation, je dirais fédératrice en tout cas. Et alors moi je suis un peu comme Sébastien, je suis très content d'être ici aujourd'hui, et je crois, Francis, que... Je ne sais pas si... Il me semble que c'est vous, d'ailleurs, en 1974, l'année de ma naissance, qui êtes le premier à avoir parlé de reggae, justement, dans Best et ce type de magazine. Quoi.
Parmi les premiers.
Voilà, et... Bon,
je suis
vous avez compris, c'est mon année de naissance.
Je suis ravi d'avoir permis cette rencontre, parce que Blockbuster, c'est aussi ça.
On fait un Blockbuster Francis Dordor.
Voilà, c'est des moments, c'est des déclarations d'amour transgénérationnelles, et ça me touche. Et maintenant, Alexandre, est-ce que vous avez une déclaration d'amour à faire à Francis Dordor?
Écoutez, moi j'ai écrit mon spectacle beaucoup aussi avec vos livres. Moi j'ai glané tout ce que je pouvais sur Bob Marley toute ma vie, et c'est vrai que je vous ai beaucoup lu. Je suis honoré d'être à la même table que vous.
Merci.
Je suis toujours en recherche dans ma vie de gens qui ont vu Bob en vrai, parce que moi je suis né 10 ans après sa mort, donc pour moi c'est toute mon enfance, j'ai grandi avec Bob, et pour moi c'était le passé, quoi. C'était impossible de l'avoir connu, d'avoir été un de ses contemporains. Et là, du coup, de me dire que vous l'avez vu, alors ça, c'est un truc, rien que d'en parler, voilà, j'ai la chair de poule.
Et d'ailleurs, avec ce très très bon spectacle Bob et moi, qui n'est pas un spectacle biographique sur Bob Marley, mais qui est en fait un spectacle où on évoque la vie de Bob Marley, mais une vie qui va aider votre personnage à survivre et à tenir le coup.
Ouais, complètement. C'est complètement autobiographique, en fait, cette pièce. Et c'est que moi, Bob m'a vraiment sauvé la vie, quoi. À une époque où moi j'étais dans une dépression enfantine, quoi, où je voulais me suicider, vraiment, je voulais mettre fin à mes jours parce que je comprenais pas la vie, je comprenais pas ma place dans le monde et j'y arrivais pas, quoi. Et la musique de Bob, il m'a parlé à travers sa musique, ouais, ça m'a touché, ça m'a donné de l'espoir, comme ça, et je me suis construit, j'ai grandi vraiment autour de Bob Marley, avec cette figure-là, avec sa musique, les messages, puis en comprenant un peu plus l'anglais, en comprenant vraiment ce qu'il disait, puis ensuite en découvrant tout l'aspect politique, puis je me suis créé autour de ça. Donc en fait, on parle de Bob Marley, c'est-à-dire beaucoup de gens nous disent j'ai appris plein de choses sur Bob, parce qu'évidemment voilà, je raconte, on explique un peu sa vie, mais en étant toujours par le prisme des yeux de cet enfant qui regarde Bob comme une idole, comme un ado regarde une de ses idoles, quoi. Parce que l'idée, c'est justement pas d'arriver avec un savoir théorique et de dire voilà, moi je suis pas journaliste, j'ai pas ce savoir là mais par contre c'est par les yeux de comment moi j'ai grandi et comment j'ai vu Bob Marley, quoi. Et donc en évoquant aussi les mauvais côtés qui à l'époque pour moi n'en étaient pas forcément, et qui après coup, en grandissant, je me dis ah, ça c'est quand même pas foufou, quoi. Enfin, et c'est ça qui est beau aussi, c'est ça que j'aime avec Bob, quoi, c'est qu'il y a des mauvais côtés. côtés.
Il y a des mauvais côtés, mais il y en a aussi des très bons, et notamment un très bon, ouais. C'est sa musique. Et on va l'écouter chanter une de mes chansons, si ce n'est ma chanson préférée. En fait, si je vais vous dire, c'est ma chanson préférée, vu que c'est moi qui l'ai choisie. Redemption Song de Bob Marley and the Wailers.
Yesterday, Rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Il ne fait aucun doute que musique et politique sont étroitement liées. Tous les meetings politiques commencent et se terminent par de la musique. Elle est là d'un bout à l'autre. Et la musique reflète les événements qui secouent la vie politique. Il est impossible de séparer la musique de la politique, dans le sens où elles sont tellement liées l'une à l'autre qu'elles participent ensemble au message que l'on veut faire passer.
Ce qui était essentiel pour lui, c'était d'expliquer ce qui se passait sur le plan politique à tous ceux qui ne comprenaient pas. Aux habitants du ghetto, qu'ils soient de Trenchtown, de Rum Lane ou de Matches Lane. Ces gens avaient confiance en lui, et il pouvait leur expliquer mieux qu'aucun homme politique n'aurait pu le faire ce qui se passait sur le plan politique, économique ou culturel.
Un nouvel extrait du documentaire Contre-courant de Stéphane Paoli, où on pouvait entendre réagir Edward Siga, qui a été entre autres dirigeant du parti travailliste jamaïcain et ancien premier ministre de la Jamaïque, ainsi que Al Anderson, le guitariste des Wailers. Revenons à Bob Marley enfant. Francis Dordor, Où a grandi Bob Marley? Parce qu'on a entendu qu'il avait un père blanc et une mère noire, ce qui avait l'air d'être assez peu courant à l'époque et même assez mal vu. Mais dans quel milieu a-t-il grandi?
Il passe les 10 premières années de sa vie avec quelques interruptions, mais essentiellement dans un petit hameau du nord de la Jamaïque qui s'appelle Nine Miles, où il est né. Donc début février 1945. Et donc il va vivre effectivement sans la présence de son père, essentiellement sa mère, quoique elle va être obligée de migrer parce que pour des raisons économiques. Et un peu sous la tutelle, bon, c'est un peu c'est une famille assez à l'africaine un petit peu, avec un grand-père qui s'appelle Omeria Malcolm, qui est un peu le chef du village. Et donc, il va vivre un peu une petite enfance, je dirais, très libre, un peu un enfant sauvage, en fait, un peu mougli.
Parce qu'il a très vite été livré à lui-même, en fait.
Un peu livré à lui-même, et en même temps entouré. Je veux dire, c'est pas non plus l'enfant abandonné tel qu'on le présente. Il est quand même entouré, il y a sa tante, il y a la famille. Et donc, surtout, il est au contact de la nature, et ça va le marquer profondément. C'est quelqu'un qui, se présente comme un natural mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un rapport à la nature, aux éléments naturels, qui est extrêmement profond, qui va beaucoup influencer sa sensibilité, notamment sa sensibilité musicale, parce qu'il est, c'est quelqu'un qui cherche à recréer un petit peu une forme d'harmonie qu'il a connue tout au long de cette prime jeunesse.
Sébastien Follin, le rapport au père pour Bob Marley, ça a forcément dû jouer. Parce que ce père blanc qui l'a connu, mais qui ne s'est jamais vraiment occupé de lui, est-ce que ça l'a marqué dans sa carrière ?
Alors dans sa carrière, je vais avoir du mal à analyser ça réellement dans sa carrière, mais toujours est-il que dans sa vie personnelle, Bob a quand même eu 11 enfants avec 8 femmes différentes. Il était un enfant adultère avec ce père qui, la petite histoire, était un homme blanc de plus de 60 ans et sa mère, quand elle l'a eu, avait 16 ans.
Pas adultère. Et,
pas adultère.
Non, ils se sont mariés.
Oui, ils se sont mariés. D'accord.
Oui, il y a même eu deux.
Vous voyez pourquoi est-ce que je voulais pas parler hop, boum. En tout cas, il n'a pas beaucoup connu son père,
Ah, il n'a pratiquement pas connu. Non.
Ouf, ça bon. En tout cas, il n'a malheureusement pas grandi avec son père et Bob a peut-être reproduit quelque chose en ayant beaucoup beaucoup d'enfants. Alors parfois adultère, parfois non. En tout cas, il a, est-ce qu'on peut dire semé sans être trop grivois, et peut-être que ça s'est reproduit dans sa vie personnelle.
C'était aussi le cas de son grand-père Omeria, qui lui avait une espèce de rôle, encore une fois, de chef de village, avec une forme de comportement assez polygame qui venait clairement d'une tradition africaine, quoi, c'est clair. Donc il était, de ce point de vue-là, il avait eu un exemple dans sa prime jeunesse qui était celui de son grand-père.
Et arrive la musique, parce qu'on imagine bien un enfant qui se promène comme ça dans la rue, qui voit sa tante de temps en temps, etc., etc., qui est donc très branché mysticisme et force de la nature, mais la musique, c'est-à-dire avoir un don pour la musique, ça, il faut bien que quelqu'un vous l'inculque, vous ne le découvrez pas tout seul.
Ça, c'est difficile à définir. Je pense que déjà dans le milieu dans lequel il vivait... Il a grandi aussi très près de l'église baptiste à laquelle appartenait sa mère, et donc il fréquentait assez régulièrement les chorales. Je pense que le premier éveil musical, sa première sensibilité musicale vient probablement effectivement du gospel, enfin de ce qu'on des chants liturgiques qui étaient entonnés chaque dimanche à l'église. Après, c'est un pays, la Jamaïque, où tout le monde chante, tout le monde a un instrument. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme dans toute la Caraïbe, quoi. C'est un mode d'expression privilégié. Et assez rapidement, il en est venu effectivement à fabriquer ses propres guitares avec des bouts de ficelle, des bouts des morceaux de bois de récupération, et il fabriquait sa propre guitare. Et puis il a été entouré assez rapidement de gens qui étaient déjà un petit peu plus introduits dans la pratique de la musique.
Fred Lachaise, quelle est la place du ska, du reggae dans le paysage jamaïcain aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, il y a une scène qui est encore active, bien évidemment. Les anciens sont toujours là, puisqu'on arrive quand même encore à voir régulièrement certains des musiciens des années 70 venir parcourir nos scènes en Europe.
Oui, puis en plus, vraisemblablement, comme l'a dit Sébastien Follin, Bob Marley a fourni beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux membres.
Exactement, oui. Ouais. Et il y a quand même une scène encore très active, et ce reggae, finalement, a réussi à se marier avec de nombreuses esthétiques aussi musicales, quoi. Et bien évidemment, avec le rock, avec les musiques électroniques, bien sûr, la montée du dub. Tout ça, c'est aussi autant d'esthétiques la montée du rap aussi, hein, pour lequel quand même certains artistes jamaïcains ont contribué. En tout cas, l'héritage Marley, on peut arriver à le trouver, à le trouver un petit peu partout. Et je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit avant. Je pense que Bob, ça reste quand même... c'est quelqu'un qui a dû combattre dès son plus jeune âge, parce qu'on n'a pas parlé quand même du fait qu'il était métisse, et que dans cette Jamaïque, quand on était métisse à cette époque-là, je pense qu'il fallait aussi, être fort pour arriver à sortir du lot, quoi. Voilà, donc je pense que ça joue énormément sur sa personnalité, sur sa sensibilité et sur sa volonté à un moment aussi d'arriver à quelque chose et d'arriver à faire quelque chose, quoi. De grand, quoi, du coup.
Alexandre, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu Bob Marley, et est-ce que ça a été une sorte de coup de foudre immédiat, ou est-ce que c'est plus une histoire d'amour qui s'est fait chemin faisant?
Franchement, je pourrais pas me souvenir de la première fois où j'ai entendu Bob Marley, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec Bob Marley. Donc, parce que mon père écoutait du Bob, donc en fait j'ai grandi avec cette musique, donc je me souviens pas d'un moment. Par contre, j'ai énormément de souvenirs dans ma chambre de découvertes d'albums ou de découvertes de morceaux que je connaissais pas. La première fois que j'ai entendu Running Away, j'ai l'impression qu'il me parlait vraiment concrètement à moi. Mais même alors que je comprenais pas forcément toutes les paroles, mais je me suis inventé pas mal de choses. Pareil sur des chansons tristes aussi. Pareil, on parlait de chansons de rupture. Bah moi j'ai eu pas mal de chansons comme ça, There She Goes ou mince, le nom m'échappe, la Chances Are, où c'était des chansons. Voilà, quand je suis triste, j'écoute ça et j'ai l'impression qu'il me parle directement, quoi. Donc je crois que c'est l'histoire d'amour, elle s'est faite au fur et à mesure, mais je me souviens pas d'un moment dans ma vie où il y avait pas Bob, quoi.
Et donc il a toujours été présent, mais on a quand même entendu que c'était une transmission paternelle.
Ouais, j'ai ce souvenir-là de mon père qui écoutait du Bob Marley, et je suis tombé un jour sur une photo de mon père dans sa chambre quand il avait 16 ans, et derrière son lit il y a un poster de Bob, et moi je regardais ma chambre et c'était la même chose, quoi. Il y avait un poster de Bob derrière mon lit, enfin, ouais, donc je sais d'où ça vient, quoi. Je ne saurais pas dire depuis quand.
Oui, et d'ailleurs, on a un émule de Freud qui est dans le studio, là, qui est en train de tout noter. C'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. On va continuer notre exploration de la vie de Bob Marley, mais on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur Get Up, Stand Up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
Stand up for your right. Get up, stand up.
Get up, stand up.
sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna do? Stand up for a yeah, right. Yeah, so yeah. You better get up.
Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
All right, settle down, settle down. Smile Jamaica is a non-political event.
Smile Jamaica est un événement non politique, un concert gratuit que Bob Marley veut offrir à tout le peuple jamaïcain.
My goal is to unify the people through the message of His Imperial Majesty.
Mon but, c'est de rassembler le peuple grâce au message de Sa Majesté impériale, l'empereur Haïlé Sélassié, le roi des rois, seigneur des seigneurs, souverain légitime de la terre.
Rastafari.
Do you really?
Et vous pensez vraiment que la musique peut enrayer la violence alors que le gouvernement n'y arrive pas?
Well, every government.
Aucun des gouvernements qui existent sur Terre est légal.
Not one of them is legal.
Aucun, il n'y en a pas un légal.
That's why we don't deal with no politics.
C'est pour ça que j'écoute aucun de ces politiques.
Yeah, man.
Le reggae peut faire naître une révolution que n'arrêtera aucune arme.
Ça ne vous pose aucun souci qu'on pense que vous avez choisi un camp? Quand vous avez des chefs de gang comme Bucky Marshall et Claudie Massop qui répandent la violence dans les rues et que les deux partis politiques sont impliqués?
Je dis aux gens que je jouerai pour eux, je jouerai pour eux.
Thank you for your question.
Est-ce que vous condamnez les violences, Bob Marley? Très très vieille question dans l'espace médiatique. Hein. C'était un extrait du film One Love de Reynaldo Marcus Green, sorti en DVD et Blu-ray en juin 2024, avec dans le rôle de Bob Marley, Kingsley Ben Adir, doublé en français par Jean-Baptiste Hanouman. Alors avant d'en arriver à Bob Marley, dont la parole politique pèse, il y a ce groupe, The Wailers, parce que Bob Marley, on a tendance à l'oublier, mais n'était pas tout seul. Alexandre, comment s'est constitué ce groupe de The Wailers?
C'est trois amis, quoi. Alors, je crois que Bunny Wailer et Bob Marley sont amis vraiment d'enfance. Je crois que Bunny Wailer a vécu un petit peu à Nine Miles aussi. Je parle sous le contrôle de
oui,
de
tout
Francis.
À fait. Non,
oui, tout est contrôlé par Francis.
Ils sont pas seulement, mais ils deviennent demi-frères.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Dès le moment où la mère de Bob a une relation avec le père de Bunny. Donc, ils deviennent demi-frères parce qu'il y a une petite sœur qui va naître qui s'appelle Pearl.
Ouais.
Et donc, ils ont des liens du sang. Là.
Ils ont tous les deux la même petite sœur.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Ils sont demi-frères. Ils s'installent à Kingston ensemble, ils vivent à Trenchtown, leur adolescence, et ils rencontrent Peter Tosh, qui eux, ils ont toujours fait de la musique, et ils se mettent à faire de la musique, et ils se mettent à faire de la musique avec ce gars qu'ils rencontrent. Et au début, ils s'appellent les Wailing Wailers, enfin, ils veulent même s'appeler les Juveniles au début. Mais c'est vraiment une histoire de trois potes qui font de la musique dans le ghetto, et à l'époque, être du ghetto, c'est la chose la plus honteuse au monde. Vraiment, c'est une infamie, faut vraiment pas dire ça, enfin, on essaye de le quitter, et de quitter tout ce que ça peut laisser comme trace sur soi, et eux, ils vont prendre de cette honte-là, ils vont la prendre et la mettre en faire une fierté, quoi, et chanter We Come From Trenchtown et raconter vraiment cette vie-là. Et ça, je trouve que c'est hyper beau, quoi. Il y a une histoire comme ça que j'ai entendue d'un seau, mais dans des maisons dans le Trenchtown, il n'y avait pas d'eau courante, donc il y avait un seau pour les besoins la nuit. Et le seau, le matin, on traversait le ghetto pour aller le verser, quoi, dans une petite rivière qui passait là. Et ce seau-là, c'est vraiment le seau de la honte quand on passe avec son seau devant tout le monde. Et de cette honte-là, de venir de cet endroit, eux, ils en ont fait une espèce de beauté merveilleuse et ils ont rassemblé autour d'eux, donc cette bande de potes, de trois potes adolescents. Donc si vous êtes ado, que vous faites de la musique ou quel que soit l'art que vous faites et que vous avez des rêves, allez-y quoi, let's go, c'est possible.
Si vous avez un seau.
Si vous avez un seau, ouais, avec pas mal de honte dedans.
Et alors, je sais que c'est aussi une époque où, pour tout ce qui est cachet, etc., ça n'a pas été simple pour eux, parce que j'ai lu qu'ils étaient souvent fait arnaquer, que les gens ne les payaient pas, enfin, ça a vraiment été une dèche pas possible, même s'ils avaient constitué un crew qui avait du talent.
Ouais.
Bah, c'est surtout que le modèle et le business, notamment des studios, est totalement différent l'artiste n'est pas protégé. Maintenant, à cette époque-là, c'était work for an hire. On travaillait, on était payé à l'instant T, et peu importait ce qu'il adviendrait des droits, des titres. Mais à ce moment-là, personne n'allait imaginer que ces morceaux allaient être encore là et être encore écoutés et joués par les radios 50 ans après.
Oui, donc eux, ils n'étaient vraiment même pas dans une logique de devenir des stars mondiales, c'était juste de gagner leur vie.
Ben, c'est déjà manger, trouver de l'argent pour pouvoir manger aujourd'hui, en fait, quoi.
Et alors, qu'est-ce qui a séduit Bob Marley dans le mouvement Rastafari ? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est que le mouvement Rastafari exactement ? Sébastien Follin, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Ça, alors, c'est pas le premier truc très compliqué que vous m'avez expliqué, parce que des fois vous me parlez de science, des étoiles, etc., parce que vous êtes très férus de science.
Je peux parler du Big Bang, mais d'ailleurs il y a peut-être un rapport entre le rastafarisme et le Big Bang, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement spirituel, c'est un mouvement qui s'inspire de l'Ancien Testament et qui part du principe que dans cet Ancien Testament, on a annoncé le retour, 2000 ans après la mort du Christ, de Dieu réincarné, de Jésus réincarné en un homme noir. Et on a vu cette réincarnation dans Haïlé Selassie, qui était l'empereur éthiopien. Et donc ça, c'est la vision, on va dire, spirituelle et religieuse. Et je préfère dire spirituelle, d'ailleurs, parce que ce que je trouve de très fort dans le rastafarisme, et c'est peut-être l'une des raisons de ce succès international et universel de Bob Marley, c'est que même si la parole rastafari et les écrits et cette philosophie s'appuient sur l'Ancien Testament, il y a quelque chose de œcuménique là-dedans. Il y a une espèce de rencontre d'une religion chrétienne avec une forme d'animisme. Et ça revient à ce que disait Francis tout à l'heure, puisqu'on parle quand même d'une Jamaïque qui est une île extrêmement naturelle où les gens ont grandi dans la nature. Et donc c'est peut-être la rencontre de cette philosophie de l'Ancien Testament avec quelque chose de très africain et de très animiste.
Alors, si c'est le Christ, c'est le Nouveau Testament.
Alors bon, ça y est. Alors après Francis Dordogne, maintenant c'est Frédéric Sigrist. Ça renvoie au roi Salomon et à la reine de Saba. Et donc en effet, il y a un petit peu d'avant le Christ, mais après à un moment donné, et je parle sous le contrôle de tous les gens qui sont autour de cette table, comme ça c'est plus simple. Il y avait cette idée de la réincarnation, en tout cas de Dieu en cet empereur éthiopien qui a foulé le sol éthiopien en 66, je crois, 63, 66. Je sais plus.
66,
et qui a été accueilli comme le dieu qu'il représentait pour une grande partie de la population de l'île, et qui a permis de mettre en évidence cette population rasta, qui était aussi une population opprimée et qui faisait partie des minorités, qui s'est avérée être beaucoup plus importante que ce qu'on pensait.
Francis Dordogne, j'ai lu aussi que on appelait ça les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Et 12 tribes of Israel. 12 Tribes of Israel, c'est une des branches du rastafarisme, qui en comporte d'autres, hein, les Bobo Ashanti, orthodoxes, etc., etc. C'est un des courants majeurs du mouvement rastafari en Jamaïque, et c'est celui qui est le plus à même d'accueillir des gens qui sont métissés, parce que chez les orthodoxes, vous avez des gens qui sont un peu plus...
des puristes.
Un peu plus puristes que d'autres, et les 12 Tribes avaient cette fonction un petit peu de pouvoir accueillir un petit peu toutes les couleurs, j'allais dire, de la population jamaïcaine. Donc Bob a adhéré, a rejoint ces 12 Tribes. Pourquoi les 12 tribus ? Ben, l'origine de ce terme, c'est la Bible, hein, c'est l'Exode, et donc c'est... La promesse d'une terre promise qui serait effectivement Zion, donc Sion, et qui se trouve là pour le coup, qui se trouve plus en Israël, mais qui se trouverait en Éthiopie. Le Rastafari, ce qu'on peut expliquer, c'est que c'est pas un syncrétisme comme vous l'avez dans d'autres îles de la Caraïbe, comme la Santeria par exemple à Cuba, ou le Candomblé au Brésil, ou le Vaudou en Haïti. C'est vraiment une religion mimétique, c'est-à-dire c'est un peu une imitation, ou plutôt une reproduction un petit peu d'un système et d'une hiérarchie et d'une construction théologique qui émane effectivement et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que c'est vrai que l'Ancien Testament a énormément de place, notamment l'Exode, parce que c'est vraiment le livre qui explique effectivement à la fois l'esclavage, mais aussi la libération de l'esclavage, l'Exode, donc le retour à la terre promise, mais aussi le Nouveau Testament et notamment l'évangile, le dernier évangile, donc celui de Saint Jean, et la dernière partie qui est Revelation en anglais et l'Apocalypse en français, où vous avez effectivement l'ultime combat entre le bien et le mal. Et ça, Bob Marley, notamment dans certains de ses textes, va profondément s'inspirer de ce texte-là.
On n'a pas parlé de la femme de Bob Marley. Parce que tous ces moments de galère, il y a quand même eu aussi des moments...
La
première, Rita.
La seule. Oui, il n'aurait qu'une épouse. Il aurait eu plusieurs maîtresses et plusieurs génitrices, si j'ose dire, mais il n'a eu qu'une épouse.
Et donc, comment s'est passée cette rencontre ?
À l'époque où Bob Marley travaillait pour Coxon Dodd, donc dans les studios Studio One, il y avait un petit groupe de jeunes filles qui s'appelait les Soulettes, qui était un trio et qui faisait les chœurs sur beaucoup de morceaux. Et c'est là où il s'est passé une rencontre. Et Bob a trouvé en Rita une sorte de soutien à un moment où il était un petit peu livré à lui-même. Il était SDF, il n'avait plus de domicile. Quand ils enregistraient dans les studios de Studio Douane, et ils avaient tellement peu d'argent, on leur donnait tellement peu que dès qu'il y avait une mangue qui tombait sur le toit, tous les toits étaient en tôle ondulée. Donc quand une mangue tombait sur le toit, ça faisait boum, et là les musiciens se précipitaient, c'était le premier qui pouvait juste la choper pour pouvoir la manger, et donc ça faisait quasiment un repas. Et donc à cette époque, Bob était vraiment livré à lui-même, il était sans moyens, sans ressources, sans domicile, et d'une certaine manière, avec Rita, ça s'est assez vite... il a trouvé un équilibre grâce à elle. Il n'a jamais rompu avec Rita, il a toujours conservé cette attache matrimoniale, et donc, il n'y a jamais eu de rupture officielle, jamais eu de divorce. Donc, il n'a eu qu'une épouse, et il a eu effectivement un nombre incalculable de maîtresses.
On va entendre Bob Marley dans une archive INA de 1980, une interview diffusée à l'époque sur Antenne 2.
Mon sentiment à propos de cette musique, c'est qu'elle va devenir de plus en plus grande, à un point tel qu'elle trouvera son public. Tu comprends, il n'y a pas de limite à cette musique. Cette musique, elle s'affichera partout, sur vos murs, sur des affiches. Elle est un des moyens pour que le peuple se libère de ses chaînes et de ses liens par rapport à l'oppression.
Alors après ces périodes de vache maigre avec The Wailers, etc., c'est aussi une période où il a enregistré un nombre incroyable de chansons et qu'on a redécouvert après sa mort.
Il a enregistré un nombre incalculable de chansons, effectivement, dans toute cette période de ce qu'on a appelé la période jamaïcaine, qui court effectivement de 1962 à 1972 à peu près. Donc ces 10 premières années qui sont des années de galère où il passe d'un producteur à un autre, généralement assez mal traité, assez mal payé, assez mal rémunéré. Il va effectivement écrire un nombre très important de chansons et il va en utiliser pas mal. Il va réenregistrer ses chansons à l'époque où, après avoir signé avec le label Island, qui va effectivement lui permettre d'avoir une ouverture mondiale. Et donc effectivement, beaucoup de ces primes chansons vont être des tubes par la suite. Pas No Woman No Cry, parce que ça véritablement c'est un morceau charnière entre l'avant et l'après, la période un peu souterraine de la carrière de Bob Marley et le moment où il explose sur la scène internationale. Mais il y a beaucoup de chansons qui vont rejaillir, notamment je pense à une qui s'appelle Night Shift, qui raconte cette période très particulière de sa vie où il s'est exilé aux États-Unis pour gagner sa vie, et donc il va travailler sur une chaîne de montage des unis Chrysler. Il va travailler dans un laboratoire de chimique où il sert simplement à ramasser les poubelles, à essuyer les tables de laboratoire. Et ça, il le raconte dans Night Shift. Il raconte effectivement cette vie d'ouvrier, de trimard.
Et à quel moment survient le succès, Alexandre ? À quel moment, tout d'un coup, il est propulsé star mondial au point que les gens considèrent même certains de ses albums comme plus importants que ceux des Beatles ?
Ça commence à partir de 1975, c'est-à-dire qu'il y a 72, la rencontre avec Chris Blackwell, et là ils vont faire deux albums, Catch a Fire et Natty Dread, et ils font Burning, ouais. Et sur les deux premiers, il y a encore Bunny et Peter, Et sur Natty Dread, il n'y a plus que Bob. C'est ça, c'est Bob Marley and the Wailers. Et là, ils font une grande tournée en 75 qui finit, qui est aux États-Unis et en Angleterre, qui finit à Londres, au London Lyceum, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'après ce concert-là, il y a un peu un truc où le monde entier connaît le nom de Bob Marley. Et Francis, tu y étais peut-être, c'est ça?
J'étais au concert du Lyceum.
Et bah voilà, une raison de plus.
Qui a donné lieu d'ailleurs à l'album Live at the Lyceum.
Voilà, c'est ça.
Dont va être extrait le morceau No Woman No Cry. Et c'est cette version live à The Lyceum qui va effectivement ouvrir toutes les portes pour notamment au niveau radiophonique où là il va être diffusé un peu partout.
Et alors évidemment dans cette émission on n'aura pas la prétention d'être exhaustif sur la vie et la carrière de Bob Marley, et d'ailleurs aucun thème traité dans Blockbuster n'est jamais exhaustif. Le but du jeu c'est de vous donner envie de vous replonger dans l'œuvre parce que vous êtes grand.
D'ailleurs j'ai pas eu le temps de tout dire sur Tina Turner la dernière fois.
Et ben voilà, mais
un petit post-scriptum pour la fin de l'émission.
Parmi tous ces albums et toutes ces chansons, laquelle à vos faveurs? Celle, vraiment celle où vous dites ça, c'est son opus dei à lui, magnum opus, je ne sais pas comment on dit en latin, je n'ai pas fait ça en troisième langue.
C'est très dur de choisir un morceau, moi, je trouve.
Ouais, très dur.
Mais
Et ben, faut le faire, quand même.
Et ben, je validerais, je partirais sur High Tide or Low Tide. Moi, ce serait ça. Là, c'est magnifique, c'est beau, c'est triste, c'est beau. Enfin, ouais.
C'est un morceau qui est paru, je crois que c'est sur Burning, ou enfin, c'est un morceau qui est pas paru de son vivant, c'est ça.
Ouais, c'est ça qui est sorti après. Ouais.
C'est un bonus qui figure sur une réédition, donc.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est pas exactement. Okay. Moi, c'est...
Fred.
Burning, sûrement.
Burning.
Ouais. Il reste un de mes morceaux favoris. Ouais.
Très bien.
Burning and Looting, alors.
Burning and Looting. Ah, oui.
Sébastien, voilà.
Moi, je dirais Redemption Song, parce qu'il y a une phrase dedans, moi, qui guide ma vie. C'est « Emancipate yourself from mental slavery ». Cette phrase-là, elle comprend toute l'universalité de Bob Marley. « Émancipez-vous de vos chaînes mentales ». Je trouve que cette phrase, qui est dans Redemption Song, elle dit tout, parce qu'il y a à la fois un constat politique et social de l'état du monde et un énorme message d'espoir là-dedans.
Mmh. Francis Dorder ?
Slave Driver, peut-être parce que c'est avec cet album-là, donc on est en 72-73, que je découvre Bob Marley pour la première fois. Et Slave Driver est un morceau avec qui a une particularité, c'est que Bob Marley se situe... C'est là vraiment son génie qui se manifeste, c'est-à-dire que c'est vraiment un morceau où il est à la fois ce descendant d'esclaves, de par sa mère... donc enchaîné, et l'image qu'il produit effectivement dans le texte, c'est celle-là. Il est enchaîné, tel que l'était l'esclave à fond de cale dans cette fameuse traversée entre l'Afrique et les Caraïbes. Et il est aussi ce Bob Marley contemporain qui est enchaîné à la misère. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre du génie, qui est arrivé à donner les deux facettes et les deux dimensions de l'histoire en une phrase. Ça, c'est ce qui vraiment caractérise son génie. Et il y a effectivement cette phrase qui est extraordinaire, que je trouve qui est « Half of the story has never been told ». Une partie de l'histoire n'a jamais été racontée. Mmh. Et pour moi, Bob Marley, c'est aussi un professeur. C'est-à-dire que moi, au début des années 70, je ne connaissais rien, parce qu'on nous n'apprenait absolument rien de cette histoire qui a été l'esclavage et qui concerne effectivement tous les peuples, enfin une partie des peuples européens. Et donc, on n'enseignait absolument rien sur cette histoire. Et moi, j'ai appris beaucoup grâce à cette chanson. Ne serait-ce que cette phrase-là me disait « Mais c'est quoi cette autre partie de l'histoire ?» Et j'ai été amené effectivement à creuser le sujet, à me rendre en Jamaïque et dans les autres îles de la Caraïbe pour effectivement... Et ça, Bob Marley, c'est le début, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, mais bon, avec tous les... tout ce que ça peut avoir aujourd'hui, un peu
de récupération
politique, etc. Mais à la base, il y a quand même quelque chose de très profond et de très intelligent, c'est-à-dire effectivement se libérer, nous, peuples occidentaux, mais aussi libérer ceux qui ont été victimes de cela et arriver à quelque chose qui soit enfin une forme de...
Oui.
Cette partie de l'histoire est fondamentale pour arriver à créer un monde qui soit un peu... Et je pense que Bob Marley, de ce point de vue-là, a une fonction éminemment importante.
Mais, Sébastien,
je voulais juste rajouter quelque chose sur cet aspect professeur et pédagogique de Bob, il l'est aussi pour les insulaires, les endroits où il y a eu l'esclavage territorialement. Moi, je suis né à Madagascar, j'ai grandi à La Réunion. On m'a enseigné mes ancêtres les Gaulois. parce que je suis aussi français, et heureusement, je suis français, je le revendique, il n'y a pas de problème. Mais en étant à La Réunion avec mon faciès, je ne me suis jamais interrogé à l'époque quand on me serinait mes ancêtres les Gaulois, et c'est en entendant des chansons telles que celles de Bob ou d'autres artistes qu'il y a eu un début d'éveil par rapport à ces questions-là. Donc c'est un enseignement universel, encore une
fois. Et pour la petite anecdote aussi, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Rasta, mais j'avais juste envie de dire, parce qu'on dit beaucoup Rasta, Rastafari, 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 mais peu de gens savent que Tafari, en fait, c'est le nom d'Haïlé Sélassié. Et Ras, ça veut dire roi en éthiopien. Donc Rastafari, c'est le roi Tafari, quoi. Et c'est devenu Rasta, Rasta, Rastafari, mais je trouve ça important de rappeler que ça vient de là, quoi. C'est Rastafari. D'ailleurs, dans le reggae, il y a beaucoup d'artistes qui s'appellent Ras quelque chose, si je dis pas de bêtises.
Tu dis pas de bêtises, hein.
J'en dis assez peu.
Frédéric Lachaise, là, ils m'ont mis les poils, hein. Les trois, ils m'ont mis. Donc là, il va falloir terminer cette émission en disant un truc vraiment émouvant. À la limite, parler d'une histoire triste qui n'a rien à voir avec Bob Marley, si jamais vous êtes un peu en carafe.
Non, mais... ce que je peux te dire, c'est sûr qu'Haïlé Sélassié est venu à Guétari dans les années 30. Et ça n'a pas vraiment eu le même impact en fait chez nous.
Ah oui,
tu vois.
Oui, d'accord.
C'est vrai. On trouve une stèle à l'hôtel de Biarritz d'ailleurs. C'est pas une bêtise que je vous raconte.
Ah oui, juste une.
Oui, oui.
Juste une stèle.
Qui atteste qu'Haïlé Sélassié a séjourné à Guétari.
D'accord.
Guétari,
il a fait du longboard à Biarritz. Ouais.
Mais ça n'a pas eu le même rayonnement. Ouais, comme quoi, on doit appeler ça l'exception culturelle française. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en notre compagnie pour évoquer, effleurer la grande, grande vie de Bob Marley. Merci Sébastien Follin. Merci Fred Lachaise. Merci Francis Dordor. Et merci Alexandre Virapin Apou.
Merci à vous.
J'aimerais remercier également Charles de Cilia qui réalise cette émission, qui est une émission préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, avec l'aide d'Emilien Miloc et de Camille Olive. Et à la technique aujourd'hui, on la remercie également, on remercie tout le monde, Adèle Caglar. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Instagram pour me dire, ah bah tiens, faites un blockbuster sur Tina Turner. Non, c'est déjà fait, il y a Sébastien Follin sur le dos. Oh, sur Bob Marley, bah c'est Sébastien Follin aussi.
Sébastien Follin, bravo. Attention, j'ai d'autres dossiers. Hein.
Oui, mais on se voit après, on en parle. Et on se retrouve demain pour parler du jeu vidéo incroyable Red Dead Redemption.
Le message, the feeling, il est dans le feeling. C'est ça qu'il faut qu'on mette dans cette chanson.
Yes, like a natural,
voilà, c'est ça,
like
c'est comme mystique naturel, c'est un truc qui t'enveloppe tout entier, tu vois le genre.
Yes, man, it's a
yeah, man, c'est ça, il faut que ça t'enveloppe comme un brouillard.
Brouillard. C'est le retour de la playlist qui reprend ses droits et Jean-Baptiste Dibert a longuement réfléchi. Ah, c'est dur de passer après Bob, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Yamé qui nous chante Quête.
Il me chante la mélodie et voit que la moula du Katanga. Chapeau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Ah. Tu passes au log 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supports, ne passe pas les logs. Et en grosse pécane, on draga même avec le brown loot. Code négé sur le switch avec balle en pleine. J'grandis plus. Ma chaîne des combats de daron. Il le vois-tu. C'est carré seulement si c'est pas où. Zéro. Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. Pas cassé, viens pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La petite veut que je la ouette pour qu'elle se complète, je la capte comme un deton. Petit faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente. Ah mais pourquoi tu quêtes? Je suis dans ma quête, il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse, oh ça bégaye en brut. Je parle que le net, grosse tempête à la Hesse.